À 3h30, une automobile s'arrêtait. La porte en bas claqua de nouveau. Et presque aussitôt, Yvonne aperçut son mari qui entrait rapidement, l'air furieux. Il courut vers elle, s'assura qu'elle était toujours attachée et, s'emparant de sa main, examina la bague. Yvonne s'évanouit. Elle ne sut pas au juste en se réveillant combien de temps elle avait dormi. Mais la clarté du grand jour pénétrait dans le boudoir et elle constata, au premier mouvement qu'elle fit, que les bandes de toile étaient coupées. Alors elle tourna la tête et vit auprès d'elle son mari qui la regardait.
« mon fils, je veux mon fils !»
Il répliqua d'une voix dont elle sentit la raillerie.
« Notre fils est en lieu sûr, et pour l'instant, il ne s'agit pas de lui, mais de vous. Nous sommes l'un en face de l'autre, sans doute, pour la dernière fois, et l'explication que nous allons avoir est très grave. Je dois vous avertir qu'elle aura lieu devant ma mère. » Vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Yvonne s'efforça de cacher son trouble et répondit
« Aucun. »
« Je puis l'appeler ?»«
Oui, laissez-moi en attendant. Je serai prête quand elle viendra. »«
Ma mère est ici. »«
Votre mère est ici ?»
s'écria Yvonne éperdue et se rappelant la promesse d'Horace Velmont.
« Oui. »«
Et c'est maintenant. C'est tout de suite que vous voulez ?»«
Oui. »
Pourquoi ? Pourquoi pas ce soir ? Demain ?
Aujourd'hui et maintenant. Il s'est produit, au cours de la nuit, un incident assez bizarre que je ne m'explique pas. On m'a fait venir chez ma mère dans le but évident de m'éloigner d'ici. Cela me détermine à devancer le moment de l'explication. Vous ne désirez pas prendre quelque nourriture auparavant ?
Non, non.
Je vais donc chercher ma mère.
Il se dirigea vers la chambre d'Yvonne. Celle-ci jeta un coup d'œil sur la pendule. La pendule marquait 10h35.
« Ah !»
fit-elle avec un frisson d'épouvante. « 10h35 !» Horace Velmont ne la sauvera pas. Et personne au monde, et rien au monde ne la sauverait. Car il n'y avait point de miracle qui pût faire que l'anneau d'or ne fût pas à son doigt. Le comte revint avec la comtesse d'Origny et la pria de s'asseoir. C'était une femme sèche, anguleuse, qui avait toujours manifesté contre Yvonne des sentiments hostiles. Elle ne salua même pas sa belle-fille, montrant ainsi qu'elle était gagnée à l'accusation.
« Je crois qu'il est inutile de parler très longuement. En deux mots, mon fils prétend... »«
Je ne prétends pas, ma mère, j'affirme. » J'affirme sous serment que, il y a 3 mois, durant les vacances, le tapissier, en reposant les tapis de ce boudoir et de la chambre, a trouvé, dans une rainure de parquet, l'anneau de mariage que j'avais donné à ma femme. Cet anneau, le voici. La date du 23 octobre est gravée à l'intérieur.
Alors, l'anneau que votre femme porte...
Cet anneau a été commandé par elle en échange du véritable. Sur mes indications, Bernard, mon domestique, après de longues recherches, a fini par découvrir aux environs de Paris, où il habite maintenant, le petit bijoutier à qui elle s'était adressée. Cet homme se souvient parfaitement, et il est prêt à en témoigner que sa cliente ne lui a pas fait inscrire une date, mais un nom. Ce nom, il ne se le rappelle pas, mais peut-être l'ouvrier qui travaillait avec lui dans son magasin s'en souviendrait-il. Prévenu par lettre que j'avais besoin de ses services, cet homme a répondu hier qu'il était à ma disposition. Ce matin, dès 9h, Bernard allait le chercher. Tous deux attendent dans mon cabinet.
Il se tourna vers sa femme.
« Voulez-vous, de votre plein gré, me donner cet anneau ?»
Elle articula. « Vous savez bien, depuis la nuit où vous avez essayé de le prendre à mon insu, qu'il est impossible de l'ôter de mon doigt. »
« En ce cas, puis-je donner l'ordre que cet homme monte ? Il a les instruments nécessaires. »
« Oui. »
Elle était résignée. En une sorte de vision, elle évoquait l'avenir, le scandale, le divorce prononcé contre elle, l'enfant confié par jugement au père, et elle acceptait cela en pensant qu'elle enlèverait son fils, qu'elle partirait avec lui au bout du monde, et qu'ils vivraient tous deux, seuls, heureux. Sa belle-mère lui dit « Vous avez été bien légère, Yvonne. » Yvonne fut sur le point de se confesser à elle et de lui demander sa protection. À quoi bon ? Comment admettre que la comtesse d'Origny pût la croire innocente ? Elle ne répliqua point. Tout de suite, d'ailleurs, le comte rentrait, suivi de son domestique et d'un homme qui portait une trousse sous le bras. Et le comte dit à cet homme
« Vous savez de quoi il s'agit ?»«
Oui. Une bague qui est devenue trop petite et qu'il faut trancher. C'est facile. Un coup de pince. »
Et vous examinerez ensuite si l'inscription qui est à l'intérieur de cet anneau fut bien gravée par vous.
Yvonne observa la pendule. Il était 11h10. Il lui sembla entendre quelque part dans l'hôtel un bruit de voix qui disputait, et malgré elle, un sursaut d'espoir la secoua. Peut-être Velmont avait-il réussi. Mais le bruit s'étant renouvelé, elle se rendit compte que des marchands ambulants passaient sous ses fenêtres et s'éloignaient. C'était fini. Horace Velmont n'avait pas pu la secourir. Et elle comprit que pour retrouver son enfant, il lui faudrait agir par ses propres forces, car les promesses des autres sont vaines. Elle eut un mouvement de recul. Elle avait vu sur sa main la main sale de l'ouvrier, et ce contact odieux la révoltait. L'homme s'excusa avec embarras. Le comte dit à sa femme
« Il faut pourtant vous décider. »
Alors, elle tendit sa main fragile et tremblante que l'ouvrier saisit de nouveau, qu'il retourna et appuya sur la table, la paume découverte. Yvonne sentit le froid de l'acier. Elle souhaita mourir d'un coup. Et s'attachant aussitôt à cette idée de mort, elle pensa à des poisons qu'elle achèterait et qu'il endormirait presque à son insu. L'opération fut rapide. De biais, les petites tenailles d'acier repoussèrent la chair, se firent une place et mordirent la bague. À un effort brutal, la bague se brisa. Il n'y avait plus qu'à écarter les deux extrémités pour la sortir du doigt. C'est ce que fit l'ouvrier. Le comte s'exclama triomphant.
« Enfin, nous allons savoir, la preuve est là, et nous sommes tous témoins !»
Il agrippa l'anneau et regarda l'inscription. Un cri de stupeur lui échappa. L'anneau portait la date de son mariage avec Yvonne. 23 octobre. Nous étions assis sur la terrasse de Monte-Carlo. Son histoire terminée, Lupin alluma une cigarette et lança paisiblement des bouffées vers le ciel bleu. Je lui dis
« Eh bien ?»«
Eh bien quoi ?»«
Comment quoi ?»«
Mais la fin de l'aventure !»«
La fin de l'aventure ?»«
Mais il n'y en a pas d'autre !»«
Voyons, vous plaisantez !»«
Nullement !»«
Celle-là ne vous suffit pas ?»«
La comtesse est sauvée !» Le mari n'ayant pas la moindre preuve contre elle... et contraint par sa mère à renoncer au divorce et à rendre l'enfant. Voilà tout. Depuis, il a quitté sa femme, et celle-ci vit heureuse avec son fils, un garçon de 16 ans.
Oui, oui, mais la façon dont la comtesse a été sauvée.
Mon cher ami. Lupin daigne parfois m'appeler de la sorte. Mon cher ami, vous avez peut-être une certaine adresse pour raconter mes exploits. Mais fiche-toi. Il faut mettre les points sur les i. Je vous jure que la comtesse n'a pas eu besoin d'explication.
Je n'ai aucun amour propre. Mettez les points sur les i.
Il prit une pièce de 5 francs et referma la main sur elle. Qu'y a-t-il dans cette main ?
Une pièce de 5 francs.
Il ouvrit la main. La pièce de 5 francs n'y était pas. Vous voyez comme c'est facile. Un ouvrier bijoutier coupe avec des tenailles une bague sur laquelle est gravé un nom, mais il en présente une autre sur laquelle est gravée la date du 23 octobre. C'est un simple tour d'escamotage. Et j'ai celui-là dans le fond de mon sac ainsi que beaucoup d'autres. Bigre, j'ai travaillé 6 mois avec Pickman.
Mais alors ?
Allez-y donc.
L'ouvrier bijoutier.
C'était Horace Velmont. C'était ce brave Lupin. En quittant la comtesse à 3 heures du matin, j'ai profité des quelques minutes qui me restaient avant l'arrivée du mari pour inspecter son cabinet de travail. Sur la table, j'ai trouvé la lettre que l'ouvrier bijoutier avait écrite. Cette lettre me donnait l'adresse. Moyennant quelques louis, j'ai pris la place de l'ouvrier et je suis venu avec un anneau d'or coupé et gravé d'avance. Passé muscade. Le comte n'y a vu que du feu.
Parfait.
Et j'ajoutais un peu ironique à mon tour.
Mais ne croyez-vous pas que vous-même fûtes quelque peu dupé en l'occurrence ?
Hein ? Et par qui ?
Par la comtesse.
En quoi donc ?
Dame, ce nom inscrit comme un talisman. Ce beau ténébreux qui l'aima et souffrit pour elle. Tout cela me paraît fort invraisemblable et je me demande si, tout Lupin que vous soyez, vous n'êtes pas tombé au milieu d'un joli roman d'amour bien réel et pas trop innocent.
Lupin me regarda de travers.
Non.
Comment le savez-vous ?
Si la comtesse altéra la vérité en me disant qu'elle avait connu cet homme avant son mariage et qu'il était mort, et si elle l'aima dans le secret de son cœur, j'ai du moins la preuve que cet amour fut idéal, et que lui ne le soupçonna pas.
Et cette preuve ?
Elle est inscrite au creux de la bague que j'ai brisée moi-même au doigt de la comtesse, et que je porte. La voici. Vous pouvez lire le nom qu'elle avait fait graver. Il me donna la bague. Je lus « Horace Velmont ». Il y eut entre Lupin et moi un instant de silence. Et l'ayant observé, je notais sur son visage une certaine émotion, un peu de mélancolie. «
Pourquoi vous êtes-vous résolu à me raconter cette histoire, à laquelle vous avez fait souvent allusion devant moi ?»«
Pourquoi ?» Il me montra d'un signe une femme très belle encore qui passait devant nous au bras d'un jeune homme. Elle aperçut Lupin et le salua. C'est elle. C'est elle avec son fils.
Elle vous a donc reconnu ?
Elle me reconnaît toujours, quel que soit mon déguisement.
Mais depuis le cambriolage du château de Thibert-Ménil, la police a identifié les deux noms de Lupin et d'Horace Velmont.
Oui.
Elle sait par conséquent qui vous êtes. Et elle vous salue,
m'écriai-je malgré moi. Il m'empoigna le bras et violemment.
Croyez-vous donc que je sois Lupin pour elle ? Croyez-vous que je sois à ses yeux un cambrioleur, un escroc, un gredin ? Mais je serai le dernier des misérables. J'aurais tué même qu'elle me saluerait encore. Pourquoi ? Parce qu'elle vous a aimé ?
Allons donc. Ce serait une raison de plus, au contraire, pour qu'elle me méprisât.
Alors, je suis l'homme qui lui a rendu son fils.